Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Dernier jour de visite en Calédonie pour Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer reçoit ce matin une délégation du FLNKS. Amarré, un individu tire sur la caserne de gendarmerie avec un gros calibre. Il est activement recherché. Fin de conflit à l'Étoile du Nord. Après 3 semaines de conflit, les rouleurs ont repris le travail sur mine ce matin. En métropole, François Bayrou surprend tout le monde. Le Premier ministre va engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre à l'issue d'une déclaration de politique générale. Et puis le sport avec du tennis. Parmi les Français qualifiés pour le deuxième tour de l'US Open, Benjamin Bonzi qui a sorti le Russe Medvedev. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On a beaucoup parlé de Sudpro, la plateforme mise en place par la province Sud qui permet, vous le savez, d'aider les patentés et les TPE. La province a également lancé au même moment Sudjeune, un dispositif qui favorise, lui, l'accès des moins de 30 ans sur le marché du travail. Il a déjà permis l'embauche de 36 jeunes, dont 34 en CDI. Comment fonctionne ce dispositif et quel bilan peut-on déjà en tirer? C'est ce que nous vous proposons dans le magazine Citoyen que vous retrouverez dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Charlène Gauthier, la directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique à la province Sud, de Catherine Desrumeaux, qui est gérante du laboratoire du Catalan, de Jade Vanal, gérante de Tiati, et de plusieurs jeunes qui bénéficient de ce dispositif Sudjeune, un magazine citoyen à retrouver dès la fin de ce journal. Manuel Valls devrait donc quitter la Nouvelle-Calédonie ce soir. Le ministre des Outre-mer, qui a expliqué que le premier travail du comité de rédaction de l'accord de Bougival est terminé, a une deuxième fois reporté son départ pour pouvoir rencontrer cette fois-ci une délégation du FLNKS, qui, rappelons-le, n'a pas pris part aux séances du comité de rédaction. Et le ministre des Outre-mer s'entretient avec cette délégation du FLNKS depuis 9h ce matin, Nicolas Legrand.
Oui, effectivement. Alors, il s'agit peu ou prou de la même délégation que celle rencontrée en milieu de semaine par le ministre des Outre-mer, à savoir Dominique Fauchy pour l'Union calédonienne, Laurie Oumouni pour le RDO, Jean-Marie Ayawa pour la DUS, Roch Aucas remplace Marie-Pierre Goyetch pour le Parti travailliste, et on signalera l'absence du MOI de Arnaud Cholet-Léa Cava. En revanche, de nouvelles personnalités de l'Union calédonienne font leur apparition dans cette délégation, à savoir Gilbert Thuyénon et Pierre-Chanel Tutu-Goro. On retrouve aussi Juanito Roy-Mitan, Olivier Fandos et Oriane Trolluc qui font partie de cette délégation. Certaines sources affirment qu'ils le font en tant que collaborateurs, d'autres directement en discussion avec le ministre. Je rappelle que le ministre des Outre-mer s'est félicité hier sur Facebook de rencontrer le FLNKS ce matin, réaffirmant que sa porte resterait ouverte, ce qui avait nécessité, vous l'avez dit Jean-François, un nouveau report de son départ à ce soir. Donc pour le moment, aucune nouvelle des discussions qui durent depuis 9h ce matin. Au commissariat, Nicolas Legrand, RRB.
Voilà, et on attend évidemment la sortie de cette délégation pour savoir éventuellement ce qui s'est dit lors de cet entretien.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier et 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Manuel Valls ne va pas arriver à convaincre le nouveau FLNKS de reprendre la discussion autour de l'accord de Bougival. Ils sont 21% à penser à l'inverse que le ministre va convaincre le nouveau FLNKS. Et puis voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait que le comité de rédaction ait abouti à la rédaction de la première version du projet de loi constitutionnelle? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une brigade de soignants bientôt déployée sur le territoire, c'est l'annonce faite par Manuel Valls lors de sa visite au centre médico-social de Bourail la semaine dernière. Une convention a été signée entre l'État, le gouvernement et l'Ordre de Malte. L'Association nationale d'aide aux pauvres et aux malades est à l'origine de cette démarche et le président de la délégation territoriale de l'Ordre de Malte, Yann Carpentier, était notre invité ce matin. Il est revenu sur le déploiement de cette équipe itinérante composée de 5 soignants, 3 médecins, un dentiste et une sage-femme. Tous seront des bénévoles de l'Ordre de Malte et mobilisés pour des missions d'au moins 3 mois, nous a-t-il dit.
Ce seront des soignants tous bénévoles de l'Ordre de Malte. Donc ils vont être piochés au hasard des possibilités qui seront offertes, des gens qui voudront bien lâcher leur cabinet pendant 3 mois. Il faut bien comprendre qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui a un métier et qui gagne du temps en plus. On pense toujours que le bénévole, c'est un retraité qui n'a que ça à faire. Pas du tout. C'est des gens qui ont un métier. Et donc ces gens-là vont lâcher leur cabinet pendant 3 mois. Effectivement, on part sur des rotations de 3 mois en pensant, pourquoi pas, que des médecins qui vont venir vont se dire, mais après tout,
pourquoi si je ne m'installerai pas?
Voilà. Alors, il y a 2 idées. La première, c'est ça. Et la deuxième, c'est de montrer qu'il n'y a pas de risque. J'en appelle donc à la population qui va nous recevoir, qui va recevoir toutes ces équipes. Et ils vont passer partout, ou presque. 1, merci de les accueillir. 2, merci de les protéger.
Et comme son nom l'indique, la brigade a pour vocation à être mobile. Les professionnels se rendront dans les secteurs les plus en tension sur le territoire.
La DAS va donc établir un espèce de calendrier de circulation, a priori une semaine par province. Et puis à l'intérieur de chaque province, les DPAS vont faire le point des points de tension, des absences ou des besoins concrets au niveau de la population et des malades. Donc à l'intérieur de chaque province, on fera un agenda de présence.
Donc il s'agit bien d'équipes itinérantes, on est bien d'accord.
Ah oui. Mobile. Donc effectivement, ils vont occuper, le principe c'est ça, c'est d'occuper les CMS qui ont été vidés, mais qui sont équipés. Et donc à chaque fois, il y aura un personnel médical local qui s'occupera de toute la partie administrative et de la gestion des dossiers.
Les premiers soignants sont attendus d'ici la fin du mois de septembre. Et cette interview du président de la délégation territoriale de l'Ordre de Malte, Yann Carpentier, est à retrouver dans son intégralité sur rrb.nc. 11h37, la première pause de ce journal. Dans un instant, on voit ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans le magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Et si Molière débarquait au Théâtre de Lille ? La compagnie Grand Tigre signe une comédie drôle, pétillante et intelligente, traversant la vie et l'œuvre de celui qui, de son temps, fut le plus grand faiseur de grimaces sur scène, Molière. Venez en famille découvrir ce spectacle mordant les 30 et 31 août à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur les gendarmes de Tadine. Les faits se sont produits tôt hier matin quand la brigade a été la cible d'un coup de feu, Charlotte Coulson.
Dans un communiqué, le procureur de la République, Yves Dupas, précise le déroulement des faits. Il était 4h30 ce lundi matin quand les gendarmes de Tadine sont appelés par un administré de Marais qui leur demande d'intervenir. Ils se rendent donc immédiatement dans les bureaux de la brigade pour se préparer et c'est là qu'un coup de feu retentit. Le tir, qui venait très probablement d'un fusil de chasse du calibre 12, a atteint les locaux de la caserne dont la lumière était allumée. 18 impacts ont été relevés sur l'une des fenêtres donnant sur la voie publique et 7 d'entre eux ont été perforants sur des portes ou des cloisons intérieures. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le tireur aurait alors pris la fuite en voiture, les gendarmes présents sur les lieux ayant entendu un bruit de moteur juste après le tir. Le procureur de la République ajoute que les enquêteurs et le parquet sont déterminés à déployer tous les moyens d'enquête nécessaire pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ces faits d'une gravité certaine. Des faits qui sont punis de la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité.
L'actualité sociale, corps médical en tension, attention à la fracture. Voilà ce qu'on pouvait lire hier sur l'une des pancartes devant le Medipôle de ce mouvement de grève lancé par le STKE aide-soignant. Le syndicat réclame une revalorisation des aides-soignants et dénonce le glissement des tâches et l'usage abusif d'une note de service jugée source d'abus hiérarchiques. Le STKE demande également la régularisation des contrats précaires et une amélioration de l'accès aux urgences. Une rencontre entre la direction et le syndicat a eu lieu hier après-midi. Elle a permis la mise en place d'un protocole qui sera réétudié à la mi-journée par les parties prenantes. Et puis fin de mobilisation également pour le contract mine. Depuis 3 semaines, le syndicat de rouleurs était en grève et l'activité à l'arrêt sur la mine de l'Étoile du Nord. Un accord a donc été trouvé entre les parties et l'activité a repris ce matin sur mine, Charlotte.
La raison de ce blocage, des demandes d'autorisation d'exploiter qui n'auraient pas été réalisées en temps et en heure auprès de la province Nord. Elles ont finalement été déposées et approuvées, mais avec une modification du périmètre d'exploitation que contestent les rouleurs. Cette nouvelle surface, réduite, n'est pas suffisante pour leur assurer 8 voyages par jour. Il n'en permettrait que 4. Un manque à gagner pour les employés sous-traitants de la société Montagna. Mais après discussion avec la SLN, les blocages sont levés. Un accord a été trouvé entre Contract Mine et la SLN. Un élargissement du périmètre d'ici novembre, selon le premier vice-président du syndicat, Julien Merereux.
Il y a un accord qui a été trouvé, c'est pour lever les blocages, c'est pour permettre dans les 3 mois à venir là, à la SLN d'élargir les périmètres là-haut avec la province. Ça, c'est le travail que la SLN doit faire entre septembre, octobre et novembre avec la province. Et on a trouvé un accord de compensation, on a demandé une compensation pour les rouleurs de l'étoile du mois d'août pas travailler. Par contre, les mois de septembre, octobre et novembre, la SLN payera la différence de voyage pas effectué aux rouleurs.
L'accord a été trouvé hier à Koumac. L'activité a donc repris ce matin sur mine. Au mois de mars, des discussions auront de nouveau lieu concernant le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la SLN pour 10 ans.
Radio Rythme Bleu, 11h40.
100% de réussite. 10 étudiants en master international en sciences de la durabilité du département de sciences et techniques de l'UNC ont reçu leur diplôme hier soir. Ce master a pour objectif de préparer les générations futures de scientifiques et de décideurs du Pacifique aux défis du changement global en milieu insulaire et tropical. Écoutez Catherine Riss, c'est la présidente de l'université.
L'un des diplômes phares de l'université, nous n'avons pas beaucoup de masters, c'est un choix qui est fait par l'université de n'offrir des masters que dans les domaines dans lesquels il y a une vraie valeur ajoutée à les offrir en Nouvelle-Calédonie. Et ce master en sciences de l'environnement orienté sur les enjeux environnementaux et climatiques du Pacifique en est une très belle illustration. C'est un master qui est bilingue. La moitié des enseignements ont été délivrés en anglais. Ils ont suivi également ces étudiants des enseignements qui viennent de l'université partenaire qui était avec nous sur ce master. C'est USP, University of South Pacific, qui est la grande université régionale dont le siège est à Fidji, qui a partagé ses modules en sciences de l'environnement donc à nos étudiants. Et puis, ils ont tous également eu dans leur parcours une mobilité dans une université à l'international, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, au Canada, en Europe, de 6 mois, et ils ont également effectué un stage professionnel de 6 mois pour valider leur master. Donc c'est une formation très complète.
Oui, parmi les étudiants diplômés hier soir, Maëva et Rémi.
Hyper contente, c'était un master incroyable. C'est mon 3e master en fait, et c'est le meilleur que j'ai jamais fait. En termes de cours, en termes de terrain, enfin tout ce qu'on a pu faire avec les professeurs, tout ce qu'on a pu apprendre sur notre pays, sur sa biodiversité, c'était incroyable. Avant tout, la diversité des cours, parce que c'était extrêmement complet, de la géologie à la biodiversité, à l'écologie. L'implication, je pense, des professeurs, parce qu'on était quand même très bien encadrés et on avait surtout accès à des experts. C'est incroyable, c'est-à-dire que n'importe quelle question complètement technique, les personnes qui nous encadraient pouvaient répondre. Et les sorties de terrain, quoi. Je pense qu'il y a très peu de masters à l'échelle nationale qui proposent autant de sorties de terrain, et on a cette chance ici.
Beaucoup de satisfaction, c'est la fin du parcours universitaire pour certains, la suite pour d'autres. Donc oui, toujours beaucoup de fierté de réussir ce master, et spécialisé dans tout ce qui est environnemental, avec un focus dans la région du Pacifique, et encore plus particulièrement pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un master qui est fait pour répondre aux exigences territoriales.
Et la nouvelle promotion de ce master international en sciences de la durabilité comptera 12 étudiants, 6 Calédoniens et 6 autres venant de métropole. Cette année, ce diplôme proposera 2 parcours de formation, un parcours changement climatique et sciences de l'environnement en milieu insulaire et tropical, et un parcours Tropimundo Erasmus plus Mundus, incluant notamment une école de terrain. Une information pratique avant une nouvelle pause. C'est aujourd'hui le lancement de la campagne de bourse scolaire par la province des Îles. Les dossiers de demande de bourse peuvent être retirés à partir d'aujourd'hui et ils devront être retournés auprès des directeurs de secteur ou des directeurs d'école avant le mardi 30 septembre. La province indique que les dossiers reçus après cette date seront refusés pour l'année scolaire 2026. Il est 11h44. Une nouvelle pause dans ce journal. L'actualité en métropole marquée par cette annonce de Premier ministre François Bayrou. Il va engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa vous informe de travaux de réfection de la chaussée sur la route du Trianon.
Ces travaux auront lieu de nuit du 18 août au 12 septembre, par phase du lundi au jeudi soir de 20h à 5h du matin. Des fermetures partielles seront mises en place au fur et à mesure de l'avancée du chantier entre le magasin Florence et le carrefour de Michel-Ange.
Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone. Des déviations seront mises en place, mais l'accès pour les riverains et les piétons sera maintenu.
Pour votre sécurité, merci de respecter la signalisation de chantier. Plus d'infos sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 30 août au 28 septembre, transformez des petits prix en grand plaisir. Alors profitez-en pour aménager et décorer votre extérieur ou encore prendre soin de vos animaux.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et François Bayrou a pris tout le monde de vitesse. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse pour défendre les économies prévues pour les dépenses publiques dans le budget 2026. Des économies impopulaires qui rencontrent des oppositions politiques de la part de tous les partis hors socle commun, mais aussi des oppositions sociales. François Bayrou a donc décidé de forcer le calendrier. Il a annoncé qu'il allait engager la responsabilité de son gouvernement en prononçant une déclaration de politique générale devant le Parlement, suivie d'un vote de confiance.
J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances, donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. La Constitution est extrêmement simple. Déclaration de politique générale, vote. Si vous avez une majorité, le gouvernement est confirmé. Si vous n'avez pas de majorité, le gouvernement tombe.
Cette initiative a fait l'effet d'un coup de tonnerre car les chances de François Bayrou de rester à Matignon sont très minces, mais il veut faire porter la responsabilité de la situation au groupe politique. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Sauf coup de théâtre, François Bayrou devrait perdre le vote de confiance du 8 septembre prochain. Après la France insoumise, les écologistes, les communistes et le Rassemblement national, c'est au tour du Parti socialiste d'annoncer voter contre le Premier ministre. Et le chef du PS, Olivier Faure, se justifie sur TF1.
Mais comment pouvez-vous imaginer que nous puissions, à un moment où on a le budget le plus injuste qui soit, qui nous est présenté, voter la confiance et rentrer dans une majorité que nous contestons.
Les oppositions anticipent déjà l'après François Bayrou. La gauche mise tout sur la journée du 10 septembre. Jean-Luc Mélenchon appelle au blocage général jusqu'à la démission du président de la République. Marine Le Pen, elle, demande une nouvelle dissolution soutenue par le député RN Thomas Ménager.
Il n'y a pas d'autre solution qu'une dissolution pour que les Français puissent s'exprimer, que nous ayons une majorité nette et qu'on puisse faire les réformes structurelles et un redressement des finances publiques.
Démission, dissolution au nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix et cette fois-ci, il sera obligé de prendre sa décision très rapidement.
Et en engageant la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre, le Premier ministre tente aussi de couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui veulent lancer ce fameux mouvement Bloquons tout le 10 septembre. En métropole, toujours un nouvel homicide à Clermont-Ferrand, le sixième depuis le début de l'année. Quatre d'entre eux sont liés au trafic de drogue sur des modes opératoires de plus en plus violents qui font penser aux méthodes de la DZ mafia marseillaise. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va convoquer le préfet du Puy-de-Dôme pour faire le point sur cette insécurité qui inquiète les habitants de la ville. Et puis agression également d'un homme dans le tram parisien. Son agresseur, un homme né au Sénégal qui lui a porté 7 coups de couteau, a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. La victime, dont le pronostic vital n'est plus engagé, est le compagnon de la journaliste de CNews, Isabelle Piboulot, qui a lancé un appel au président de la République.
Nous remercions les forces de l'ordre qui ont agi rapidement, qui ont été vraiment d'une bienveillance sans nom. Les secours, l'hôpital Pompidou, vraiment, on connaît la difficulté dans lesquelles travaillent ces gens-là et ils ont fait un travail remarquable. Maintenant, évidemment, ça sera place à la justice. Moi, je voudrais juste terminer sur quelque chose. Je pense que je suis bien placée pour, avec tout le respect que je dois à notre président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez qu'un drame comme ça relève du brainwashing? Est-ce que vous pensez que les larmes d'une mère qui est inquiète pour son enfant, qui pense que son enfant va mourir alors qu'elle rentrait chez elle, c'est du lavage de cerveau. C'est tout.
Isabelle Piboulot, journaliste sur CNews, dont le compagnon a donc reçu 7 coups de couteau dans le tram parisien. Les actes antisémites restent très élevés. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres sur les 6 premiers mois de l'année. Ces chiffres soulignent que l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et le conflit qui a suivi a radicalisé les positions. William Molinier pour Europe 1.
Rien qu'au premier semestre de cette année, 646 actes antisémites ont été recensés. Ce sont tout de même plus de 3 faits comptabilisés chaque jour, mais ils sont en baisse, moins 27% par rapport à la même période l'année dernière, période qui avait été marquée par une explosion de ces délits dans un contexte post-7 octobre. Et si l'on compare au premier semestre 2023, donc juste avant les attaques terroristes en Israël, le niveau d'aujourd'hui est nettement supérieur, plus 112%. En clair, jamais jamais une guerre au Proche-Orient n'avait déclenché une telle explosion d'actes antisémites en France. Outre ces chiffres inquiétants, c'est aussi la violence des agressions qui est frappante. Il ne s'agit plus uniquement de tags ou de dégradations. On se souvient de l'incendie criminel de la synagogue de Rouen ou encore de l'attentat islamique contre la synagogue de la Grande Motte. Le service de protection de la communauté juive a comptabilisé l'année dernière 106 agressions physiques, dont le viol d'une enfant de 12 ans.
11h51, nous allons parler sport dans un instant avec Lionel Fichou, avec notamment le premier tour de l'US Open de tennis à Flushing Meadows. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorélève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive entre Jean-François Baudin.
Oui, c'est bien Léo Fichou qui est avec nous pour cette page sport que nous ouvrons par du tennis, Léo. Et cette fois-ci, c'est officiel, Caroline Garcia est à la retraite sportive.
Oui, la Française s'est inclinée ce matin au premier tour de l'US Open. Une défaite en 3-7 contre la Russe Kamila Rakhimova à 31 ans. Et après 15 saisons sur le circuit professionnel, Caroline Garcia a donc tiré un trait sur sa carrière. Défaite également d'autres tricolores ce matin. Léolia Jean-Jean, Hugo Humbert ou encore Corentin Moutet. Il y a quand même eu pas mal de victoires tricolores au premier tour du Grand Chelem américain. Arthur Hinderknecht s'est qualifié, Hugo Blanchet, Adrien Manarino, Benjamin Bonzi qui a dominé Daniil Medvedev, mais aussi Diane Parry et Elsa Jacquemot chez les dames. Les favoris répondent présents également. Victoire de Novak Djokovic et des Américains Tyler Fritz, Ben Shelton et Frances Tiafoe. Jessica Pegula s'est qualifiée pour le second tour, tout comme Arina Sabalenka et Jasmine Paolini. On notera que Carlos Alcaraz doit affronter d'ici 13h l'Américain Reilly Opelka. Jannik Sinner entrera dans la compétition demain. Et puis un retour, celui de Venus Williams pour son 25e US Open. À 45 ans, elle est invitée par les organisateurs.
Et puis du cyclisme pour souligner la magnifique victoire de David Gaudu, le français, sur la troisième étape de la Vuelta.
Le français de la team Groupama FDJ a surpris tout le monde la nuit dernière sur le Tour d'Espagne. Donc il s'est effectivement offert une victoire de prestige. Il a devancé au sprint Mats Pedersen et Jonas Vingegaard. Après une saison compliquée, David Gaudu était forcément heureux à l'arrivée.
Ouais, c'est sûr que la saison a été vraiment tellement difficile. Et j'ai pas gagné un World Tour depuis. Je crois que c'était bien le critérium du Dauphiné où j'avais battu Wout van Aert. Voilà, sur le CV, on va rajouter Mads sur un sprint. C'est anecdotique, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Avec cette victoire, David Gaudu est désormais dans le même temps que le leader Jonas Vingegaard. Le Danois conserve tout de même son maillot rouge au bénéfice d'une règle bien spécifique, l'addition des places obtenues à chaque étape. Lors de la première étape, Jonas Vingegaard avait terminé 41e, soit 8 places devant le Français.
Allez, on va terminer avec un mot de sport sur le territoire. La Fédération calédonienne de football vient d'annoncer le programme des demi-finales de la Coupe de Calédonie. Les matchs auront lieu samedi au stade Numa Delhi. En ouverture à 13h, Horizon Patho sera opposé à l'AS Magenta et à 16h, Tigasport affrontera le CA Saint-Louis. L'entrée pour assister à ces matchs est fixée à 300 francs.